Voilà, nous allons voir aujourd'hui la discipline dans l'Église de Christ. Ça, c'est vrai que la discipline, c'est pas gay, la discipline. Qui aime la discipline? Mais partout la discipline se trouve. Elle se trouve partout. Dans une école, il est impossible de ne pas avoir de discipline. Si vous n'avez pas de discipline dans une école, c'est une catastrophe. Vous changez d'école vos enfants directement. Vous vous rendez compte que dans cette école, on se tape dessus à la récré. Ben, vous prenez vos enfants et vous les mettez dans une autre école, non? Il faut de la discipline. Et que dire d'une famille? Une famille sans discipline, on arrive à la catastrophe. Tout le monde fait ce qu'il veut. Et ça va très mal se passer un jour ou l'autre. Il va y avoir des drames. Et il y a des drames, hein. Allez voir dans les journaux et ça en est rempli. Des tas de drames parce que il n'y a peut-être pas eu la discipline dans certains domaines. Bon, il n'y a pas qu'une question de discipline, il y a bien d'autres choses. Mais la discipline, c'est pas simplement éduquer. C'est accepter l'éducation pour soi-même aussi, rechercher à être éduqué par le Seigneur. Il y a l'éducation que nos parents nous donnent, mais une fois qu'on devient adulte, il faut rester enseignable. Et ça, c'est plus difficile quelquefois. Des fois qu'on est adulte, on veut faire ce qu'on a envie. On croit que voilà, il n'y a plus personne qui peut nous dire quoi que ce soit. Mais non, la société, je vois bien à l'école hôtelière, on forme les jeunes à être respectueux. Tous les jeunes, là, quand j'arrive, ils me disent bonjour. Ils n'ont peut-être pas envie, mais ils ont appris. Ils ont appris, parce que dans la société, on ne dit pas bonjour à tout le monde nécessairement, quand on ne connaît pas bien les gens. Et là, bon, ils ont appris à être face à la clientèle ou à n'importe qui. Et ils sont obligés d'avoir une droiture de comportement. Bon, on ne sait pas comment ça se passe dans leur tête, mais la manière dont ils vivent, ben, montre qu'ils ont de l'éducation. Et en classe, il y a le respect par rapport aux professeurs, etc., au pluriel, etc., etc. Hein, c'est pas toujours sûr à 100%, ça, mais on présume. Hein, il y a les éducateurs, ils ont peur des éducateurs, parce qu'après, c'est la directrice. Puis avec la directrice, ça peut voler bas, parce qu'ils peuvent se remettre, ils peuvent être mis dehors de l'établissement, des établissements assez sélects. Donc, si ça ne va pas, on est vite passé de l'autre côté. Hein. Et donc voilà. Et dans l'Église, on fait ce qu'on veut dans l'Église. Sous l'appellation grâce, hein, appellation contrôlée, hein, d'origine contrôlée, la grâce, l'amour, donc on ne peut rien dire, rien dire. On peut laisser tout faire parce qu'il faut aimer. Non. Non, l'amour demande justement aussi la fermeté, il n'y a rien à faire, la discipline dans l'Église. Et nous allons lire ensemble avec Géraldo qui va nous faire aller la dia suivante. J'aurais dû prendre peut-être le petit appareil. L'Église a été instituée par Dieu en Jésus Christ. Toute loi et toute règle doit être biblique puisqu'il en est l'auteur. Voilà, Dieu a donné l'Église, c'est lui qui a choisi l'Église. Il nous a choisi, il nous a mis ensemble pour former une famille. Hein. Déjà dans une famille, on n'a pas choisi ses enfants ou son père ou sa mère, mais encore plus dans l'Église. Parce que là, ce n'est même pas une question de filiation. Hein. On est là les uns avec les autres et on est appelés à s'aimer les uns les autres, à se supporter les uns les autres, à supporter des caractères différents, hein, des mentalités, etc. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça, la diversité. C'est ça qui est chouette. Mais ça suppose aussi, quelquefois, hein, quand ça ne va pas, de corriger quelque part. Définition. La discipline dans l'Église sont les mesures correctives, confrontatif, on pourrait dire, mais ce n'est pas bien français, mais en fait, prise par un chrétien, les leaders de l'Église ou la congrégation dans la vie d'un croyant. Voilà. Donc, ben oui. Et nous allons voir que c'est vrai, hein, qu'un chrétien a non pas seulement le droit, mais le devoir, quand il voit une faute chez son frère, de parler, de raconter à gauche et à droite, mais de confronter le frère ou la sœur avec amour et respect pour faire sortir de l'ornière, du péché, du piège dans lequel l'ennemi l'a mis, afin que cette personne ait la vie, hein, garde la vie, préserve la vie merveilleuse que Dieu a donnée, parce que le péché est une tache. Et Dieu veut nous rendre purs, hein, à son exemple. Et donc, nous sommes co-responsables les uns des autres. Nous ne pouvons pas laisser faire les autres sous couvert que la religion est une affaire privée. Chacun fait son truc et personne n'a droit de s'ingérer dans la vie personnelle des autres. Ben, si c'est ça, alors on va regarder le culte à la télévision ou sur Internet, chacun chez soi. Mais si on vit ensemble, l'Église, c'est un ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui se vit comme un ermite dans un coin bien reculé. Mais cette parole-là, elle nous a été donnée pour la vivre ensemble. Et pour se sanctifier les uns les autres, il y a le « édifiez-vous, encouragez-vous, soutenez-vous et corrigez-vous aussi ». Quelque part, parce que nous avons des paroles qui peuvent nous aider mutuellement à nous sanctifier les uns les autres pour qu'on demeure dans la crainte de Christ, parce qu'il revient bientôt. Et moi, je veux être de ceux qui vont aller avec le Seigneur, et vous aussi. Alors, nous allons nous aider, nous entraider. Nous sommes interdépendants. Nos ministères, c'est aussi de veiller les uns sur les autres. Ce n'est pas simplement dire « Oh, comme c'est bien ce que tu fais, et quand c'est mal, si c'est mal, oui, il y a quoi ? Nous sommes tous des fautifs, hein, faisons tous des petites erreurs. » Ce n'est pas ça que je veux dire, mais il y a des fautes qui peuvent porter à conséquence. Il y a des choses qui ne sont pas... Si vous faites une faute de français, c'est pas... ça peut être corrigé, ce n'est pas ça, mais c'est, ça n'a pas la même implication que si vous créez une division dans une église. Comprenez ce que je veux dire. Voilà. Alors, le modèle est la base de la discipline. Le fait que le Seigneur lui-même châtie ses enfants, et nous voyons ça dans Hébreux, chapitre 12, versets 6 à 11, le Seigneur châtie ses enfants. Ben oui, c'est normal. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Voilà. Quand on aime, on corrige. Hein? Et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne corrige pas ? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Donc, on voit le sens, le but de la correction, c'est quoi ? Non, on revient en arrière. Oui, merci. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt. Donc, le but recherché, c'est notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Donc, le but, c'est que nous participions à la sainteté de Dieu. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse, et on aimerait autant ne pas devoir le faire. Comme ça, on est tranquille, parce que c'est toujours embêtant, parce que surtout qu'il y a des réactions, et quelquefois qui sont terribles, alors on se trouve être des gens qui se prend pour qui celui-là ? C'est qui ce type-là ? C'est qui cette femme-là ? C'est pas toujours évident. Mais nous ne devons pas voir l'effet premier, nous devons voir l'effet second, c'est-à-dire... elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. C'est-à-dire, dans le futur, elle va faire son effet. La correction, même si elle est dure au départ, et même si ce n'est pas facile à faire, et même si on a des retours négatifs, Bon, faisons confiance à Dieu. On espère en tout cas que ça va procurer un paisible fruit de justice à ceux qui accepteront à un moment donné. Parce que des fois, la correction n'est pas acceptée au départ. Puis il faut un peu de temps pour que la personne comprenne, souffre un peu par certaines circonstances, des fois. Et au travers de tout cela, la personne finit par comprendre finalement que c'était vrai, c'était juste. Mais il fallait que quelqu'un lui ait dit. Et si personne ne lui dit parce qu'on dit non, c'est trop difficile, je ne peux pas dire ça, je le pense, mais je ne le dis pas. C'est pas de l'amour. Il manque quelque chose. Voilà. Et on n'a pas fait son devoir, en plus. C'est ce que Dieu demande, c'est qu'on prenne soin de l'autre, et ce n'est pas seulement caresser dans le sens du poil, c'est des fois aller à l'encontre d'une pratique qui serait nocive. Hébreux, chapitre 12, verset 6, car le Seigneur corrige, on l'a déjà lu cela, hein, le prochain dia, si tu veux bien. Le Seigneur a délégué une partie de son autorité à l'église locale pour discipliner sa famille. Incroyable, hein? Jésus lui-même qui délègue à l'église de Bottevillers son autorité, c'est fou, quoi. Hein? Vous allez me dire, oui, ça c'est pour les grandes églises de 10 000 membres, il y a sûrement beaucoup plus de problèmes avec 10 000 membres. Oh, ça certainement qu'il y a sûrement plus de problèmes avec 10 000 membres qu'avec 20 ou 25. Dieu délègue cependant à toutes les églises locales son autorité pour discipliner sa famille, parce que nous sommes la famille de Dieu. Tu peux mettre aussi. Merci, Charles. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 12 et 13. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juges ? Ceux du dehors, Dieu les jugera, expulsez le méchant du milieu de vous. C'est Paul qui le dit. Il dit que nous ne devons pas juger ceux du dehors. Donc ceux qui ne sont pas chrétiens, nous n'avons pas à les juger. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas encore convertis, ils ne sont pas encore nés de nouveau. Vous, quand vous n'étiez pas au Christ, vous faisiez peut-être, les uns et les autres, on faisait plein d'autres choses. On était dans le temps de la patience de Dieu. Un jour, Dieu a eu de la patience, mais un jour, il a frappé à la porte de notre cœur. Nous sommes entrés dans sa famille, il nous a acceptés, d'accord ? Et il nous a pardonné toutes nos bêtises, tous nos égarements, toutes nos erreurs. Il nous a pardonné tout ce que nous avons commis. Tout. D'accord ? Et donc, ce n'est pas par rapport à ceux du dehors que nous devons juger, mais par rapport à ceux du dedans. Donc, l'Église est jugée par l'Église. Et quelquefois, je ne veux pas juger, je ne veux pas avoir un esprit de jugement. Dieu ne nous demande pas qu'on ait un esprit de jugement pour critiquer les uns et les autres sur tout ce qu'ils font. Mais il faut avoir du discernement. Et nous sommes appelés à juger ceux de l'intérieur. C'est comme ça. Ce n'est pas ceux du dehors qui doivent juger ceux de l'intérieur, d'accord ? Hein, ils le feront, hein. Si ce n'est pas fait à l'intérieur, ça va se faire à l'extérieur, hein. Quelqu'un qui vole, c'est pas l'église pourrait dire à un voleur qui se trouve dans l'église, il n'est pas chrétien. Peut-être que c'est parce qu'il n'est pas chrétien justement, mais bon, là on va déjà voir qu'il y a un problème. Mais dans la société, ça va se régler, ça c'est clair, dans les tribunaux. Mais dans l'église, les choses vont se régler dans l'Église. Et si il n'y a aucun règlement dans l'Église, ça risque de s'opérer ailleurs dans d'autres sphères. Mais je pense que c'est... La première chose, c'est que nous devons nous juger nous-mêmes. Ça, c'est la toute première chose. Quand je prends la Sainte Cène, je me juge moi-même. Je n'attends pas qu'on vienne me dire dans ta vie, il y a un problème. Si quelqu'un me le dit parce qu'il est de la famille et qu'il me voit faire quelque chose ou dire un mot ou qu'il y ait une attitude, eh bien, tant mieux. Hein? Mais normalement, je devrais comprendre par l'Esprit Saint qu'il y a quelque chose à transformer. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Et est-ce que vraiment je plais au Seigneur dans les moindres aspects de ma vie ? Déjà ça. Et Ensuite, il y a aussi le fait d'apporter, de soutenir, mais aussi d'exhorter nos frères et nos sœurs. C'est important. Si je vois un frère qui faute, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être quoi? Critiquer les autorités, critiquer les pasteurs, critiquer les églises, négativement, sans avoir de preuves, ça c'est quelque chose qu'on peut reprendre. Hein, on n'est pas obligé de laisser, hein, ne reçoit pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux, trois personnes. Donc on ne peut pas commencer à diviser les églises. Maintenant, il y a des autres types de fautes, comme les fausses doctrines. Il y a des gens qui viennent avec des fausses doctrines. Là, ils doivent être repris. On va pas laisser, hein. On va pas. Oh, laissez-le, il croit ce qu'il veut. Oh, il influence tout le monde, c'est pas grave. Et non, justement, les fausses doctrines doivent être reprises. Les gens qui disent des choses qui sont fausses et qui vont contre les enseignements. Les bons enseignements doivent être repris, il n'y a rien à faire. Et celui qui pêche des péchés dans la chair, il doit être repris, il n'y a rien à faire. Hein? Il n'y a rien à faire. Un pasteur qui deviendrait tout d'un coup homosexuel, il doit être repris. On ne va pas dire comme le monde, ben, l'homosexualité, c'est une sexualité tout à fait normale, différente peut-être, mais acceptable. Non, dans l'Église, non. En tout cas, nous, hein, et je vais dire, les églises évangéliques de manière très générale s'opposent à accepter l'idée que l'homosexualité est tout à fait normale. D'accord? Quelqu'un qui vole dans. Imaginons quelqu'un qui aurait la possibilité de voler dans une caisse d'église ou quoi que ce soit. Pas faire ça. Hein? Hein? Il y a déjà eu, hein, des soi-disant évangélistes qui ont essayé d'escroquer les églises. Mais attention, c'est des choses. On va pas laisser faire ça, évidemment. Vous comprenez la différence entre avoir une mauvaise pensée. Hein, qui peut être soigné avant la Sainte Cène, je ne veux pas encourager à avoir de mauvaises pensées. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence. Il y a une grosse différence. Donc il y a des fautes qu'on ne peut pas laisser subsister. Voilà. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juges? Ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulser le méchant du milieu de vous. Quand quelqu'un, un méchant, c'est quelqu'un qui, après avoir été averti une première fois, avoir été averti avec d'autres personnes, après avoir été averti par l'Église, mais continue et dit non, je continue, moi. On arrive quelquefois à une situation qui ne devrait pas se produire normalement, mais qui arrive. Parce qu'on y est contraint pratiquement. Et c'est vraiment contraint, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire de gaieté de cœur. Et ça, bon, on pourrait arriver. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 8. Il suffit pour cet homme du blâme qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Donc, il suffit, il s'agit d'un homme qui a couché avec sa belle-mère. Des rapports avec sa belle-mère, et donc c'est incestueux, et on ne pouvait pas, même parmi dans la société, c'est quelque chose qui est pas accepté, c'était pas accepté, et donc on ne pouvait pas l'accepter non plus, et on ne peut pas accepter des choses comme ça dans l'Église. Et donc il avait déjà repris, hein, dans la première lettre, on peut le voir, au chapitre 5. Donc maintenant, il est revenu vers le Seigneur, il a demandé pardon. Hein. Il y a eu un changement d'attitude. Vous voyez que la correction amène quelquefois un changement. Là, c'est positif. Ce n'est pas toujours négatif. Il, hein, ne faut pas croire que, toujours que les gens sont des murs et diront de toute façon. Hein. Bon, je ne vais même pas dire ce qu'il pourrait dire. Hein, mais il suffit pour cet homme du blâme qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que
vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire prévaloir l'amour envers lui, parce que cette personne qui avait péché de la sorte s'est repentie. Et quand il y a repentance, il y a pardon. Et une fois qu'on se repent, on ne doit plus revenir et reparler du péché à la personne. Elle s'est repentie, c'est fini. Si elle s'est repentie vraiment, on n'a plus à même à se souvenir de cela. Dieu ne se souvient plus du mal causé. Et on doit lui pardonner. Et le but de la discipline, c'est de restaurer la personne. C'est la restauration, c'est la repentance, la guérison, la restauration, la réhabilitation, la réconciliation. Je crois que c'est tellement important. Voilà, tu peux mettre la dia suivante, si tu veux. Elle est basée sur le saint. La discipline dans l'Église, elle est basée sur le saint caractère de Dieu. Dieu est saint. Et donc, ceux qui se trouvent en lui doivent être saints. Il n'y a pas d'autre solution. Dieu est saint et nous devons être saints. Alors, ce n'est pas que je vous vois avec des petites auréoles au-dessus de la tête. Hein, on va vous mettre en peinture et vous mettre dans les basiliques, etc. Non. Mais nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Nous sommes appelés saints parce que mis à part. Nous avons été mis à part, sanctifiés par l'offrande de Jésus. Jésus est mort à notre place et il nous a rendus saints devant le Père. Hein, je crois que c'est important. 1 Pierre chapitre 1 verset 16, puisqu'il est écrit vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints parce que je suis saint. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6 à 8. Alors être saint, c'est appartenir à Jésus. J'ai demandé pardon à Jésus, je reçois Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur, donc il est dans ma vie, il vit en moi, et maintenant je veux demeurer dans cet état, demeurer et grandir en lui. Et donc, le péché causé par habitude, par exemple, quelqu'un qui buvait, quelqu'un qui se droguait, tout ça doit disparaître. Quelqu'un qui forniquait, quelqu'un qui faisait n'importe quoi. Il y a des chasseurs d'hommes, il y a des chasseurs de femmes, hein, des gens qui sont toujours... Moi, j'étais à côté d'un homme qui conduisait. Il sifflait après toutes les filles qui étaient sur les trottoirs. Il y en a qui aiment les femmes, mais une fois qu'on est en Christ, il y a des choses qui doivent changer. Si j'étais un voleur, c'est plus quelque chose qui est tolérable. C'est pas que c'est une petite loi qui dit tu ne voleras plus, mais c'est plutôt tu es délivré, tu es délié de ce péché au nom de Jésus-Christ. Tu es délivré du mal qui t'obsédait ou qui te liait, qui te retenait, qui te conduisait même. Et tout ça doit voilà, Dieu coupe les chaînes, Dieu coupe les liens. S'il y en a, il faut s'approcher de Dieu, demander aux serviteurs de Dieu, aux servantes du Seigneur de prier afin d'être délivré. On peut le demander soi-même à Dieu. Dieu peut le faire. Dieu va le faire. Mais on ne reste pas dans le péché. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. Il n'est pas beau, votre sujet de gloire. Ça, c'était avant que la personne se repente. Hein. Donc, c'était celui qui allait coucher avec sa belle-mère. Il n'est pas beau, votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Un tout petit peu, savez-vous pas qu'un tout petit peu de levain, il n'y avait pas beaucoup besoin. Le levain, c'est quoi? C'est du pain qui a commencé à moisir. Alors, ce pain-là, on en remet dans la nouvelle pâte. Et ce qui a moisi, c'est des champignons, évidemment, hein, qui vont faire gonfler la pâte. Hein, elle a un goût avec le levain, c'est un petit peu suré comme ça, légèrement. Hein, c'est pas la même chose que de la levure traditionnelle. Hein, et un tout petit peu est suffisant. Et donc, un tout petit peu de péché dans nos vies est suffisant pour corrompre toute la pâte. Et un peu de levain dans l'Église va corrompre. Nous sommes un seul pain, on l'a vu tantôt.
Eh bien, un peu de perfidie, un petit peu de péché, pas grand-chose. Oh, on pourrait dire, on l'est, c'est bon. Hein. Non, rien du tout. Ce levain va altérer toute la pâte, altérer toute l'église, tout l'ensemble, et peut-être d'autres églises. Va porter une ombre, c'est quelque chose de mauvais. Merci. Je peux mettre la dia suivante, si tu veux. Elle est basée sur les commandements. Donc, la discipline dans l'Église, elle est basée sur les commandements de l'Écriture. Nous voyons ça écrit dans l'Écriture. C'est ainsi. Alors, voilà, 1 Corinthiens 5, 9 à 13. Je vous écris ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou les cupides, ou les accapareurs. Et avec les idolâtres, autrement vous devriez sortir du monde. Donc ça veut dire, je ne vous demande pas de ne plus avoir de relations avec les gens du monde, sinon il faut vous isoler, on va tous s'isoler, oula, nous sommes les super saints, et l'église de Vaudevillers, c'est les super saints, et on n'a plus de contact avec les gens, parce qu'ils sont impurs, on va se... Non, nous sommes au contact des gens pour être des témoignages au sein de cette société. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, voilà, attention, ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et même de ne pas manger avec un tel homme. Bizarre ça, parce que Jésus, est-ce qu'il ne mangeait pas avec les gens de mauvaise vie? C'est étonnant ça, Jésus mangeait avec. Mais pourquoi alors Paul dit ça? Parce que si vous voulez sortir les gens du monde, il faut aller vers eux. Mais s'ils se nomment frères, et s'ils se nomment sœurs, et qu'ils vivent dans la débauche, je dois encore faire comme si de rien n'était? La parole de Dieu me dit, non, je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Attends, je ne peux pas. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juges? Ceux du dehors, Dieu les jugera, expulsez le méchant du milieu de vous. Dur, hein? Apôtre Paul, il n'y va pas par quatre chemins. Hein? Là, tu peux mettre la diapositive suivante. Alors, on voit d'autres passages, comme Matthieu, chapitre 18, verset 15 à 18 en fait, hein, 17 mai. Ça c'est vraiment le principe, comment discipliner les gens dans l'église. Comment il faut faire? C'est un truc de pasteur, les pasteurs ils ont décidé. Non, la Bible renseigne comment les choses doivent marcher. Hein? Verset 15, si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Voilà, ça c'est la première étape. Tu vois ton frère qui a péché, ou ta sœur, et tu vas reprendre ce frère ou cette sœur seul à seul. Parce que souvent, dans les églises, on a souvent vu des gens qui disaient « Oh, t'as vu ce qu'il fait ? Oh, je vais aller vite le dire. » Ça, ça ne va pas. Ça, on ne peut pas. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Donc ça c'est vraiment la première étape. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc un frère qui est dans le péché, qu'est-ce qui va se produire s'il continue dans cette voie-là? Par exemple, quelqu'un qui commence à ne plus aller à l'église, il commence à mettre tout son argent dans les jeux, etc. On peut pas aider cette personne-là, dire ben reviens un peu. Tu vois là tu es en train de bifurquer. Là tu vas dans des jeux de hasard et tu mets ta confiance dans l'argent. C'est quelque chose de mauvais pour ton âme. Fais attention. Hein? Et la parole de Dieu nous exhorte et dit que il y en a qui sont tombés dans des pièges de convoitise qui font la guerre à l'âme et finalement on peut perdre son salut. Hein, progressivement s'éloigner de Dieu, avoir trouvé un autre Dieu, en fait, c'est, oh, on ne le dira pas comme ça, hein. On dira, non, je continue à aimer Dieu, mais je vais moins souvent à l'église, et bon, je fais autre chose, mais bon, chacun son hobby, hein, chacun ses loisirs, on n'a pas à juger qui que ce soit. Et les gens, bon, commencent à diminuer dans leur amour pour Dieu, ils commencent à être gagnés par le jeu et par l'argent, l'appât du gain, hein, parce qu'ils ont peut-être, ils auraient tellement voulu avoir plus d'argent pour faire plus de choses. Et ça peut être, et donc exhorter, aider une personne qui est là avec beaucoup d'amour, bien sûr. Verset 16, mais s'il ne t'écoute pas, et ça, c'est, ça concerne surtout des péchés vraiment significatifs. Même le jeu de hasard pourrait être quelque chose de significatif, hein, parce que c'est triste de perdre les gens. Bon, je n'ai jamais pris quelqu'un pour aller. Ça ne m'est jamais arrivé, hein, par rapport à cette situation que je viens d'évoquer. Ça peut être une situation autre, ça peut être l'adultère, mais ça peut être des situations relationnelles fâcheuses, hein, dans les familles ou quoi que ce soit. Très fâcheuses d'ailleurs. Ça peut être au niveau de la doctrine, un égarement.